Jusqu'à 22h, Asian Bubble. Entrez dans la bulle de Loli et découvrez toute la culture asiatique sur Neptune FM.
Ciao, bonsoir, bienvenue sur Neptune FM pour cette nouvelle émission d'Asian Bubble. Cette semaine, je vais vous parler du groupe Baseball Beer. On parlera ensuite de quelques mangas des éditions Glénat, avec la présentation de Inomaru Sumo, la chronique du volume 35 de One Piece. On aura ensuite la chronique du volume 17 de Dragon Ball Super et la présentation de Full Night. Ensuite, on aura un petit point sur les sorties mangas de la semaine. On parlera actualité au Japon avec une loi en faveur des LGBT qui franchit une première étape au Parlement. Et on finira avec une news musicale concernant Yukis qui fait son retour à 6 membres fin juin pour ses 15 ans. On commence donc avec la première chanson de l'émission, c'est Freaky Sound de BAP, et on reviendra juste après pour parler du groupe Baseball Beer. C'était BAP avec la chanson Freaky Sound. On passe maintenant à la présentation du groupe Baseball Beer. Donc c'est un groupe japonais de pop rock qui a fait ses débuts en 2001 et qui est toujours en activité aujourd'hui. Il fait partie du label EMI Records Japan depuis 2013 et anciennement des labels Blitz PA Records de 2003 à 2005, Toshiba EMI en 2006 et EMI Music Japan de 2007 à 2013. Le groupe se compose de 3 membres, on a Koide Yusuke au chant et à la guitare, Sekine Shiori à la basse et au chœur et Horinouchi Daisuke à la batterie. On compte aussi un ex-membre, Yuasa Shohei, à la guitare de 2001 à 2016. Baseball Beer est à la base un catcheur de rock japonais. Koide et Yuasa ont commencé la musique ensemble au collège en montant un copy-band d'Oasis pour la fête de leur école. Ce groupe s'appelait The Master Plan et Sekine était déjà venu les voir jouer. En 2001, pour la fête de son lycée, Koide remonte un groupe nommé Planet avec les 4 membres de départ. Même si Horinouchi et Koide ont un léger différend avant le concert, leur prestation pendant laquelle ils jouent notamment des chansons de Supercar est assez réussie. L'année suivante, en avril, le groupe est officiellement fondé. Il envoie des démos à Toshiba Emi qui, bien qu'un peu intéressé, ne donne pas suite pour l'instant. Le groupe change de nom pour adopter celui qu'il utilise actuellement, à savoir Baseball Beer. Toujours en 2002, le 15 juillet, le groupe donne son premier vrai concert au Shimokitazawa Garage. Il continue ensuite de se produire dans les quartiers de Shimokitazawa et Shibuya avant de se faire remarquer par le label indie Beats Pia Records qui va produire le 26 novembre 2003 leur premier mini-album Yugata Generation. Donc côté discographie, le groupe a sorti 10 albums, le premier High Color Times qui est sorti le 16 mars 2005 et le dernier Kogen qui est sorti le 12 avril 2017. On a ensuite 6 mini-albums, le premier Yugata Generation qui est sorti le 26 novembre 2003 et Polaris qui est sorti le 30 janvier 2019. On a un live-album, 1235 qui est sorti le 17 mars 2010, 3 best-albums, le premier Kanzenban Banbi ni Tsuite qui est sorti le 7 janvier 2009 et Zuho Kaitei Kanzenban Banbi no Best qui est sorti le 28 septembre 2016. Ils ont ensuite sorti 23 singles, le premier HR en mars 2003 et le dernier Fushigi na Yoru le 7 octobre 2015. Ils ont sorti 2 long plays, C2 le 2 décembre 2015 et Kogen le 7 juin 2017. Ils ont sorti 6 digital singles, le premier Kimi no Me le 23 juin 2010 et le dernier Bokura no Fly Away qui est sorti le 6 juillet 2012. Ils ont aussi participé à un tribute album, Rock and Sympathy Tribute to the Pillows, qui est sorti le 26 février 2014. Ils ont participé à 7 compilations, la première Suteki Compilation Punk Rock le 21 janvier 2004 et Il Hei le 23 janvier 2010. Ils ont participé également à 4 OST, alors l'OST de Linda Linda Linda, Big Wind Up, Gintama Best 2 et Toshokan Senso Kakumei no Tsubasa. Pour finir, ils ont interprété 4 génériques d'anime, donc la chanson dramatique pour Ookiku Furikabutte en 2007, Changes pour Toshokan Senso en 2008, Stairway Generation pour Gintama en 2009 et Nijusanji Yonjupun pour Bakuman 3 en 2013. On va pouvoir s'écouter tout de suite 2 chansons de Baseball Beer. On commence avec Dramatique, le premier opening de l'anime Ookiku Furikabutte. Et on reviendra juste après pour la présentation du manga Inomaru Sumo.
I'm
Asian Bubble. Découvrez toute la culture asiatique sur Neptune FM.
C'était Baseball Beer avec la chanson Stairway Generation qui est servie de 7ème opening pour l'anime Gintama. On passe maintenant à la présentation du manga Inomaru Sumo. Donc c'est un shonen de genre action-drame vie scolaire qui a été écrit par Kawada, traduit par Julien Favreau et prépublié dans les Shonen Jump et Shonen Jump Next. La version japonaise est parue en 2014 aux éditions Shueisha avec 28 tomes qui terminent la série. Et la version française est parue le 6 avril 2016 aux éditions Glénat avec également 28 tomes. Vous pourrez retrouver Inomaru Sumo dans le commerce au prix de 6,90€, l'âge conseillé pour le lire est de 14 ans et plus. Et il existe une adaptation en animé composée de 24 épisodes de 23 minutes qui ont été diffusés du 5 octobre 2018 au 29 mars 2019 et qui sont disponibles sur Crunchyroll. Donc le résumé de cette série, le club de sumo du lycée Ōodachi a beau être l'un des plus faibles de la ville, le jeune Inomaru décide quand même de le rejoindre. Il faut dire que ni sa taille ni son gabarit ne font de lui un futur sumo. Pourtant, ce nouveau venu pourrait bien se révéler beaucoup plus fort que prévu. Réussira-t-il à atteindre le grade suprême de Yokozuna ? Découvrez le parcours de ce lycéen hors norme dans le monde enflammé du sumo. Voilà, donc je rappelle que la série Inomaru Sumo est à retrouver en 28 tomes qui terminent la série aux éditions Glénat. On va pouvoir s'écouter tout de suite Fireground de Official Age Dandism, qui est servi de premier opening pour l'anime Inomaru Sumo. Et on reviendra juste après pour la chronique du volume 35 de One Piece. C'était Official Age Dandism avec la chanson Fireground qui a servi de premier opening pour l'anime Inomaru Sumo. On passe maintenant à la chronique du volume 35 de One Piece. Donc je rappelle que c'est un shonen de genre action, aventure, comédie, drame, fantastique qui a été écrit par Oda et Ichiro, traduit par Jamel Rabahi, Julien Favreau et Sylvain Chollet pour la première édition et prépublié dans le Shonen Jump. La version japonaise est parue aux éditions Shueisha avec un total de 105 volumes, la série étant toujours en cours. Et la version française est parue aux éditions Glénat avec 104 tomes pour le moment. Ce volume 35 est sorti le 8 novembre 2006 au prix de 6,90€. Donc le résumé de ce tome, grâce à l'argent qu'ils ont récupéré aux îles Célestes, l'équipage décide de remettre le Vogue Mary à neuf. Ils se dirigent donc vers Water Seven, une île fluviale réputée pour ses charpentiers. Mais une mauvaise nouvelle les attend. En effet, les charpentiers de la Galée La Compagnie leur annonce que Mary est vouée à être détruite. Peu après, Nami et Luffy se rendent compte que deux de leurs valises sont vides et retrouvent Usopp un peu plus loin, grièvement blessé. La Franky Family serait la responsable. Donc ce 35e tome est assez intense. Arrivé à Water Seven, l'équipage du Chapeau de Paille compte bien faire réparer le Vogue Mary par la prestigieuse Galée La Compagnie, grâce à l'or qu'ils ont récupéré à Skypea. Cependant, tout ne va pas se dérouler comme prévu et de dures épreuves vont secouer l'équipage de Luffy. Un album triste que ce 35e volume. Ce tome va nous montrer tout d'abord la solidarité et l'amitié de notre équipage lors du sauvetage d'Usopp, celui-ci se retrouvant en mauvaise posture avec la Franky Family qui n'est pas vraiment décidée à lui rendre les 200 millions qu'ils lui ont volés. C'est vraiment un moment très fort. Pourtant, cela ne va pas durer. Comme l'indique le titre de ce tome, Luffy va devoir prendre ses responsabilités de capitaine qui ne sont pas les plus faciles et les plus gaies. À l'image de son navire, l'équipage de Luffy se déchire petit à petit. On va également découvrir de nouveaux membres de l'armée bien mystérieux. Que cherche-t-il ? Le dessin d'Oda est toujours aussi agréable à suivre. On apprécie le style qu'il a et retrouver les traits de Luffy et de son équipage à chaque tome est toujours aussi agréable. Et puis, encore une fois, ce tome nous laisse sur une fin étrange qui nous donne vraiment envie d'en savoir plus. Voilà, donc je rappelle que la série One Piece est à retrouver avec pour le moment 104 tomes aux éditions Glénat. On va pouvoir s'écouter tout de suite le 6e opening de l'ennemi One Piece, c'est Brand New World de D51. Et on revient juste après pour les sorties manga de la semaine.
Keep on my land, I'm down.
Donc c'était D51 avec la chanson Brand New World qui a servi de sixième opening pour l'anime One Piece. On passe maintenant aux sorties manga de la semaine. Donc on a eu des sorties aujourd'hui lundi 26 juin chez Hot Manga avec le volume 1 de Better Than My First Love, le volume 1 de Misako, 34 ans, femme au foyer et étudiante, le volume 1 de Slave Widow Mariko et le volume 1 de Épouse au goût de miel. Chez Meiyan, on a eu la sortie du volume 7 de Dumbbell, combien tu peux soulever, les volumes 1, 2, 3 et 4 de Kengan Omega et les volumes 9 et 10 de Loner Life in Another World. Et aux éditions Black Box, on a eu la sortie des volumes 1, 2 et 3 de la nouvelle édition du collège Foufoufou, Flash Kimengumi, et le volume 1 de Samurai Pizza Cats. Demain, mardi 27 juin, on aura chez Picoma Europe la sortie du volume 1 de Power Girl, l'édition numérique, le volume 1 de Grid Gundrod Joker et le volume 1 de Stray Dogs Come Back Home. Pour mercredi 28 juin, chez Kamondo Books, on aura la sortie du volume 2 de Adonis, chez Delcourt Tonkam, le volume 7 de Ayakashi Triangle, le volume 3 de Blue Box, le volume 2 de Who's Next et le volume 14 de Worlds and Harem. Aux éditions Casterman, on aura la sortie du volume 1 de Chasse aux cadavres et le volume 1 de Great Trailers. Aux éditions PK, on aura la sortie du volume 4 de Dreamland, la version remaster. Le volume 12 de Love and Lies, donc vous aurez la version Misaki ou la version Ririna. Dans tous les cas, ça sera le dernier tome de la série. Et on aura également le volume 22 de Pumpkin Scissors. Aux éditions Crunchyroll, on aura la sortie du volume 3 de Gigantis et le volume 9 de Kaiju numéro 8. Et aux éditions Panini, la sortie du volume 1 de Sky High. Pour jeudi 29 juin, on aura des sorties chez Akata avec le volume 2 de Amour Placebo qui sera le dernier tome de la série, le volume 2 de La Paternité de Monsieur Iyama qui sera le dernier tome de la série, et le volume 4 de The Sound of My Soul qui sera également le dernier tome de la série. Les dernières sorties de la semaine, ça sera pour vendredi 30 juin avec chez Noeve Crafts la sortie du volume 6 de A Certain Scientific Railgun, le volume 7 de Miss Kobayashi's Dragon Maid, le volume 4 de On l'a fait, le volume 1 de Reki et Yomi, le volume 4 de Scum's Wish, le volume 1 de Une autre moi, le volume 6 également de Welcome to the Ballroom, qui sera disponible en édition normale et en édition extra. Chez Nio Niba, on aura la sortie du volume 1 de Anal Studies, chez Vega Dupuis, on aura le volume 1 de Because I Can't Love You, le volume 16 de Birdman qui sera le dernier tome de la série, le volume 4 de Mimizuku et le Roi de la Nuit qui sera le dernier tome de la série et le volume 4 de Rokudo Tosuki, le tournoi des 6 royaumes qui sera également le dernier tome de la série. Aux éditions Ototo, on aura la sortie du volume 11 de Fate Apocrypha, aux éditions Taifu Comics, le volume 8 de Katsuo Fugetsu Beauties of Nature et enfin aux éditions Kana, on aura la sortie du volume 1 de Shoten, le volume 4 de Tokyo Aliens, le volume 10 de Togen Anki, la légende du sang maudit, et le volume 12 de Undead Unlock. Voilà, donc c'est tout pour les sorties manga de la semaine. On va pouvoir s'écouter tout de suite la chanson No Rain, No Rainbow de Baby Metal, et on viendra juste après pour la chronique du volume 17 de Dragon Ball Super.
さえも「
Donc c'était Baby Metal avec la chanson No Rain, No Rainbow. On passe maintenant à la chronique du volume 17 de Dragon Ball Super. Donc je rappelle que c'est un shonen de genre action, aventure, comédie, fantasy qui a été écrit par Toriyama Akira, dessiné par Toyotaro et prépublié dans le V-Jump. La version japonaise est parue aux éditions Shueisha avec 20 volumes, la série étant toujours en cours, et la version française est parue aux éditions Glénat avec pour le moment 19 tomes. Ce volume 17 est sorti le 6 juillet 2022 au prix de 6,90€. Le résumé de ce tome, sur la planète céréale, Goku et Vegeta se battent contre Granola, devenu le guerrier le plus puissant de l'univers. Le malentendu n'est toujours pas dissipé et Granola rumine sa vengeance. Le combat s'annonce explosif. Son Goku et Vegeta donc atteignent la planète céréale où se trouve Granola, survivant d'un peuple exterminé par les Saiyans, et qui a décuplé sa puissance par l'utilisation des Dragon Ball. Jurant de venger les siens, il s'engage dans une bataille acharnée, Goku ouvrant les hostilités. Mais la puissance acquise par Granola est telle que le guerrier au corps pur, malgré une meilleure maîtrise du réflexe transcendantal, peine à prendre l'avantage. Contre toute attente, c'est Vegeta qui sort son épingle du jeu et montre les fruits de son entraînement auprès de Beerus, le dieu de la destruction. Partant sur de bonnes bases liées à l'héritage de la diégèse de Dragon Ball, le début de l'arc du survivant Granola a montré de belles idées, avec parmi elles une cristallisation de la représentation des deux rivaux que sont Goku et Vegeta en tant que poulains de deux types de divinités, à la fois opposées et liées dans leur alchimie. La première grande confrontation avec Granola était l'occasion de pousser vers l'avant l'histoire prometteuse de cette nouvelle partie de Super, chose qui va cependant prendre plus de temps que prévu. Car dans ce 17e tome, Toyotaro ne se penche pas encore pleinement sur le potentiel de cette intrigue, préférant nous narrer un long combat riche en rebondissements dans lequel Goku et Vegeta se succèdent pour faire montre de leur puissance et imposer le statut actuel de leur développement respectif. C'est précisément là où le volume montrera le plus d'intérêt, que ce soit dans l'imperfection du réflexe transcendantal utilisé par Goku en tant que représentant de l'école de Whis, ou la nouvelle transformation déployée par Vegeta qui lui incarne davantage l'état d'esprit de Beerus. Ainsi naît l'ego transcendantal, une bonne idée sur le papier puisque donner au prince Saiyan une forme qui lui est propre n'a rien de déconnant, mais qui souffre de limites si on se penche sur le chemin accompli par le personnage. Si l'individualité de Vegeta est une de ses composantes, l'arc Majin Buu d'antan était censé mener le personnage vers l'acceptation de son humanisation. Depuis, le chapitre Super n'a cessé de revenir sur l'ancien caractère du personnage, tout en renforçant son humanité, en abordant son regret et son envie de rédemption, conformément à une case rajoutée par Akira Toriyama dans l'édition Kanzenban du manga original, dans laquelle le rival de Goku reniait finalement sa place de numéro 2. La série a donc toujours un peu le postérieur entre deux chaises, et ce nouvel état ne fait pas exception à la règle, tant il joue sur l'ego du personnage avec certaines nuances. L'opposition entre le tempérament Saiyan de Vegeta et le calme qu'il habite désormais étant un perpétuel enjeu de son développement personnel. Les idées sont donc bonnes, mais peuvent légitimement créer un décalage. Malgré ces tentatives intéressantes, Toyotaro tire un peu sur la corde par cet affrontement de lancement d'arc, qui dure pourtant tout un volume. C'est assez long, trop même pour ce qui est raconté, même si cela permet quelques rebondissements appréciables, tandis que le mangaka montre qu'il a perfectionné son découpage. Fort heureusement, la toute fin du volume sait clore la bataille en ajoutant de l'intérêt à une intrigue qui devrait en montrer plus que ça. Il suffira d'une micro-révélation ou plutôt d'un nom évoqué avec quelques parallèles intéressants pour que revienne la notion d'héritage si chère à la saga Dragon Ball. Si on attend d'en savoir plus sur l'implication du personnage concerné, tout semble raccord avec les idées proposées par Toriyama depuis l'excellent film Broly, la notion de succession par le prisme des Saiyans. À voir ce qu'il en sera fait, mais le tome suivant devrait nous éloigner du schéma classique que cet arc connaît actuellement. Voilà, donc je rappelle que Dragon Ball Super est à retrouver avec pour le moment 19 tomes de sortie aux éditions Glénat. On va pouvoir s'écouter la chanson Chosetsu Dynamic de Yoshi Kazuya, qui est servie de premier opening pour l'animé Dragon Ball Super. Donc on va s'écouter la version TV Size, donc la version générique. Et on reviendra juste après pour la présentation du manga Full Night.
Make a wall. 書けばいい。新たなステージは
Donc c'était Yoshi Kazuya avec la chanson Chosetsu Dynamic, la version TV Size, qui a servi de premier opening pour l'anime Dragon Ball Super. On passe maintenant à la présentation du manga Full Night. Donc c'est un seinen de genre comédie, drame, psychologique, science-fiction, thriller, tragique, qui a été écrit par Yasuda Kasumi et prépublié dans le Big Comic Superior. La version japonaise est parue en 2020 aux éditions Shogakukan avec un total de 6 volumes, la série étant toujours en cours. Et la version française est parue le 4 mai 2022 aux éditions Glénat avec pour le moment 4 tomes de sortie. Vous pourrez retrouver Full Night dans le commerce au prix de 7,60€. L'âge conseillé pour le lire est de 14 ans et plus. La série est pour public averti à cause de la violence modérée et il n'existe pas d'adaptation en animé. Donc le résumé de cette série, depuis 100 ans, un épais nuage empêche le soleil d'éclairer la Terre. Avec une nuit et un hiver prolongés à jamais, et face à des végétaux en déliquescence, l'humanité a placé ses espoirs dans la technique de transfloraison, consistant à transformer un humain en plante. Bien évidemment, ces opérations sont limitées aux personnes en fin de vie pour une raison éthique. Mais lorsqu'une prime de 10 millions de yens est accordée aux volontaires, certains n'hésitent pas à contourner les règles pour s'inscrire sur les listes. Toshiro est l'un d'entre eux. Sans aucun avenir et fatigué de la vie, il va choisir de se transformer en plante. Seulement, cette opération va lui accorder des talents qu'il ne soupçonnait pas. Full Night est un récit d'anticipation dystopique dans lequel le jeune auteur Kasumi Yasuda a su créer un univers original où humains et végétaux se confondent. Avec un graphisme rappelant parfois Otomo ou encore Urasawa, le titre a été plébiscité par des auteurs comme Sui Ishida, l'auteur de Tokyo Ghoul, et Shuzo Oshimi, l'auteur des Liens du Sang, qui admirent ce jeune talent. Une belle surprise pour tous ceux et celles qui veulent découvrir une nouvelle génération de mangaka. Donc j'ai une petite interview de l'auteur, donc Kasumi Yasuda. Donc je vais vous la lire. Donc Full Night est un récit d'anticipation dystopique où la misère sociale fait partie du quotidien. Pourquoi avoir choisi d'explorer ce genre ? Pour démarrer ce projet SF, bien que je reste mitigée sur le côté science de ce manga, je souhaitais trouver un grand thème qui puisse recouvrir l'ensemble de l'histoire. Puis j'ai regardé le film Joker et je me suis dit que sa thématique correspondait bien à la société japonaise actuelle. J'ai donc décidé de prendre le même axe pour Full Night, donc la réponse à votre question serait parce que Joker est un super film. L'histoire prend racine dans un monde où un épais nuage prive la Terre des rayons du soleil, empêchant les végétaux de pousser et de fournir de l'oxygène. Comment vous est venue l'idée de la transfloraison ? Avez-vous dû rechercher de la documentation ? Racontez-nous la genèse de cette intrigue. Le principe des humains transformés en plantes existe un peu partout, mais mon influence principale provient d'un élément au début du jeu Dark Souls 3. On aurait dit des humains qui poussaient du sol vers le ciel et j'ai bien aimé cette idée. J'ai dû acheter 6 encyclopédies de botanique pour ma documentation. À la lecture, on sent une appétence pour l'écologie. Quel est votre rapport à la nature et sa préservation ? Je ne fais que vivre normalement, je n'ai donc pas conscience de faire quelque chose de particulier pour préserver la nature. L'univers que vous présentez est très riche et le graphisme rappelle parfois celui d'Otomo ou encore d'Urasawa. Quelles sont vos sources d'inspiration ? Pour la structure du récit et le scénario, mes influences viennent de Ghost in the Shell, Lupin the Third, le château de Cagliostro, Bienvenue à Gattaca, Amer Béton, le roman The Foreign Duck, The Native Duck and God in a Coin Locker ou Bloodborne. J'aime beaucoup les œuvres qui me permettent de ressentir de l'empathie pour les personnages, tout en profitant pleinement de l'univers. Au niveau du trait, je pense avoir été influencé par les débuts de Minetaro Mochizuki et de Shoyu Tajima. De quel personnage vous sentez-vous le plus proche et pourquoi ? Toshiro, je suis un pleurnicheur et je ne suis pas très intelligent. Comment et pourquoi avez-vous débuté dans le milieu du manga? Quels sont les mangaka qui vous ont inspiré et vous ont donné envie de faire ce métier? On ne m'a jamais acheté aucun manga à l'école primaire. En réaction à ça, je me suis fait une énorme collection à partir du collège et j'ai fini mangaka. Le premier manga que je me suis acheté est Muyo et Roji, bureau d'investigation des affaires paranormales, et enfant, j'admirais Yoshiyuki Nishi. Comment construisez-vous vos histoires? Avez-vous déjà une idée de leur longueur, de leur rebondissement et de leur fin? Je me laisse porter. J'ai un peu de mal à me sortir du point de vue omniscient quand je construis mon scénario et je me retrouve parfois avec des personnages morts, ce qui m'oblige à corriger mon intrigue. Et au final, le dénouement ou la longueur de l'histoire envisagée au départ ne sont plus ce qu'ils étaient. J'ai quelques idées pour la suite, mais je suis persuadée que les personnages vont encore faire des leurs et tout ce que j'ai là risque d'être réduit à néant. Comment un jeune auteur comme vous envisage-t-il le travail au sein d'un bimensuel, le Big Comic Superior? Le rythme et la discipline de vie qu'impose une telle périodicité ne sont-ils pas trop intenses pour un jeune auteur? C'est hard, j'aimerais qu'il y ait 40 jours dans un mois. C'est la première fois que vous êtes publié en France, avez-vous un message à transmettre aux lecteurs français? Quand j'étais à la fac, j'ai pu aller au Festival International de la BD d'Angoulême et j'ai été subjuguée par toutes les bandes dessinées que j'y ai vues. Je suis très honorée de me retrouver dans les mêmes librairies que ces fabuleuses œuvres. Survivons avec Toshiro au monde de Full Night. Voilà, donc je rappelle que la série Full Night est à retrouver aux éditions Glénat avec pour le moment 4 tomes de sortie. On va pouvoir s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est Believer de Bacon, et on reviendra juste après pour une actualité au Japon.
Time.
c'était Bacon avec la chanson Believer. On passe maintenant à l'actualité au Japon. Donc le Parlement japonais a approuvé mardi 13 juin une nouvelle loi visant à promouvoir la compréhension à l'égard des personnes LGBT. Aussitôt critiqué comme inférieur aux attentes, le Japon restant le seul pays du G7 à ne pas reconnaître les unions de même sexe. Ce texte a été débattu pendant des mois à la chambre basse du Parlement et les élus les plus conservateurs étaient réticents à y introduire une clause anti-discrimination, arguant que cela aggraverait les divisions au sein de la société ou générerait des procédures en justice abusives. Un compromis a finalement été trouvé avec une clause interdisant toute discrimination injuste à l'égard des minorités sexuelles. Mais l'ajout de ce mot injuste affaiblit la portée de cette clause en signifiant en creux que certaines discriminations seraient justes, ont regretté donc des militants LGBT. Nous condamnons fermement cette loi dont le contenu est à l'opposé de ce que nous avions réclamé, a critiqué l'organisation japonaise pro-LGBT G-Hall dans un communiqué. Le contenu de cette loi trahit les personnes concernées en faisant preuve de considération à l'égard des auteurs de discrimination, a ajouté G-Hall. La loi doit encore être votée par le Sénat pour entrer en vigueur. Cela ne devrait être qu'une formalité car la coalition au pouvoir détient aussi une très large majorité à la chambre haute du Parlement. Le Japon est le seul membre du G7 à ne pas reconnaître les unions de même sexe, mais comme l'archipel nippon assure cette année la présidence tournante de ce groupe des principaux pays industrialisés, la pression sur le parti libéral démocrate du Premier ministre Fumio Kishida s'était intensifiée pour adopter un texte protégeant davantage les personnes LGBT contre les discriminations. Contrairement au gouvernement et à la plupart des parlementaires nippons, la population japonaise est majoritairement favorable à la légalisation du mariage homosexuel, selon des sondages. Un nombre grandissant d'entreprises du pays offre aussi aux personnes de même sexe vivant en couple des avantages similaires à ceux des personnes mariées. Et des municipalités du pays délivrent des certificats sur demande pour leur simplifier certaines démarches administratives. Voilà, donc affaire à suivre. On va pouvoir tout de suite s'écouter une autre chanson, c'est Generation Next de Bada. Et il reviendra juste après pour finir l'émission avec news musicale. Generation Next. Donc c'était Bada avec la chanson Generation Next. On va maintenant finir l'émission avec une petite news musicale. Donc le 14 mai dernier, Tango Music, l'agence de Yukis, a annoncé le retour du groupe pour fêter son 15e anniversaire. Le projet se déroule en 3 temps, donc en mai on a eu Hoon et Soyoon qui ont sorti chacun un single digital. En juin, on a eu Yukis qui a sorti un mini-album et en juillet, on aura Yukis qui donnera 2 concerts au Japon, le 28 à Tokyo et le 30 à Osaka. Donc le 31 mai, les photos teasers de Soyoon, Yoon et Kisop sont dévoilées ainsi que 3 autres photos mystères nommées Project Member. Le lendemain, le nom des membres mystères sont révélés. Il s'agit d'Alexander, Ellie et Eiji. Donc pour rappel, Alexander et Ellie ont débuté en 2008 avec Yukis. Alexander a quitté le groupe en 2011 tandis qu'Ellie l'a quitté en 2019. Quant à Eiji, il a intégré Yukis suite au départ de Kiboom et de Alexander. À partir de 2012, ce dernier a commencé à s'absenter par rapport à ses études. Et en 2016, après des années d'absence, sa dernière participation à un projet du groupe datant de 2013, il a officiellement quitté le groupe. Le 12 juin, le programme des participations, des sorties promotionnelles pardon, est dévoilé. Le mini-album Playlist est prévu donc pour dans 2 jours, le 28 juin. Il est composé de 6 pistes, dont 2 chansons-titres, Party Tonight et The Wonderful Escape. De plus, l'une des chansons du mini-album, Dear Mom, est écrite et composée par l'un des membres, Kisop. Pour la liste des pistes donc de ce mini-album, on a donc en première piste, Party Tonight. Ensuite, on a The Wonderful Escape, My Favorite, The Way You Are, Dear Mom et Memories. Pour le contenu de la version E-Side et B-Side, on a un photobook de 88 pages, un CD, 2 photocartes aléatoires parmi 18 modèles, un message carte aléatoire parmi 6 modèles, un mini poster aléatoire parmi 2 modèles et un poster aléatoire parmi 2 modèles en avantage de précommande. Le 19 mai, Hoon a donc sorti le single Mea Rosa. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez découvrir le clip live de cette chanson sur internet et on va se l'écouter juste après. Le 29 mai, c'est au tour de Soyoon de sortir son single en solo. Il s'intitule Season et il est aussi accompagné d'un clip en version live. Ce projet solo est une collaboration avec le chanteur Owen qui a composé et écrit la chanson. Voilà, du coup pour terminer l'émission, on va pouvoir s'écouter la chanson Mea Rosa de Hoon. Je rappelle que vous pourrez me retrouver vendredi prochain de 18h30 à 19h pour l'émission Cordialement Geek. Sinon, on se retrouve lundi prochain de 21h à 22h pour une nouvelle émission Asian Bubble. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine et à bientôt!
떠났던 시간 망설이는 손끝으로 닿지 못해